Voilà, bonjour à tous. Alors Pierre-Paul, dans son introduction, nous a déjà décrit des événements graves et dramatiques de la Première Guerre mondiale. Et je dirais, le ton est donné, je vais continuer ce matin. Mais dans un tout autre registre, puisque nous allons lire un texte dans 2 Samuel, c'est le chapitre 21, les versets 1 à 14. Et on était déjà dans cette partie de la Bible, il y a quelques mois, puisque c'était Paul, notre pasteur, qui nous avait parlé d'un épisode juste après. C'était quand David avait fait le dénombrement du peuple d'Israël. Alors, je vais donc lire les 14 premiers versets de 2 Samuel 21 dans la version du Semeur. Pendant le règne de David, une famine sévit pendant 3 années. David en demanda avec instance la raison à l'Éternel, et l'Éternel lui répondit : Cela arrive parce que Saül et sa famille sanguinaire ont fait périr les Gabaonites. Le roi convoqua les survivants des Gabaonites pour leur parler. Alors ici, il y a une petite explication, un commentaire. Les Gabaonites n'étaient pas des Israélites, mais ceux qui restaient des Amoréens. Les Israélites s'étaient liés à eux par un serment, malgré cela, Saül avait cherché à les exterminer dans son zèle nationaliste pour les Israélites et les Judéens. David demanda aux Gabaonites : Que puis-je faire pour vous ? Comment pourrais-je expier le mal que vous avez subi afin que vous bénissiez le peuple qui appartient à l'Éternel ? Les Gabaonites lui répondirent : Ce n'est pas avec de l'argent ou de l'or que pourra se régler notre différend avec Saül et sa famille. Et il ne nous appartient pas de faire mourir quelqu'un en Israël. Le roi leur dit : Que demandez-vous donc ? Je ferai pour vous ce que vous demanderez. Ils répondirent au roi : Cet homme voulait nous exterminer, et il avait projeté de nous faire disparaître de tout le territoire d'Israël. Livre-nous donc 7 de ses descendants, et nous les pendrons devant l'Éternel à Gibéa, où résidait Saül, l'élu de l'Éternel. Le roi déclara : Je vous les livrerai. Mais le roi épargna Méphibosheth, fils de Jonathan, petit-fils de Saül, à cause du pacte qu'il avait conclu par serment au nom de l'Éternel avec Jonathan. Il fit donc arrêter Harmoni et Méphibosheth, les deux fils, que Ritzpa, fille d'Aïa, avait donné à Saül, ainsi que les 5 fils que Merab, fille de Saül, avait donné à Adriel, fils de Barziaï de Méola. Il les livra aux Gabaonites, qui les pendirent sur la colline devant l'Éternel. Tous les 7 succombèrent ensemble. Ils furent mis à mort au premier jour de la moisson, au début de la récolte de l'orge. Alors Ritzpa, fille d'Aïa, prit son habit de toile de sac et l'étendit sur le rocher. Elle demeura là depuis le début de la moisson des orges, jusqu'à ce que tombent les pluies d'automne. Pendant le jour, elle empêchait les oiseaux de s'abattre sur les corps, et la nuit, elle en éloignait les bêtes sauvages. On rapporta à David ce que Ritzpa, fille d'Aïa, épouse de second rang de Saül, avait fait. Alors le roi alla demander les ossements de Saül et de son fils Jonathan aux notables de Yabesh en Galade. Ceux-ci avaient en effet subtilisé leur corps de la place de Beth-Shan, où les Philistins les avaient attachés le jour où ils avaient vaincu Saül à Gilboa. Il fit venir de là les ossements de Saül et de son fils Jonathan et les joignit à ceux des suppliciés. Il fit ensevelir les ossements de Saül et de Jonathan dans le territoire de Benjamin, à Tsela, dans le tombeau de Kish, père de Saül. On se conforma à tout ce que le roi avait ordonné. Après cela, Dieu se laissa fléchir et intervint en faveur du pays. Voilà, texte un peu long, et puis un peu étrange, violent même. C'est hard, comme disent parfois les jeunes. Et c'est tout à fait le genre de texte que nos contradicteurs nous mettent parfois dans les dents, là aussi, passez-moi l'expression, pour dénoncer la violence de l'Ancien Testament, et en profiter pour balayer d'un revers de la main tout le message de la Bible. En effet, où est l'amour de Dieu là-dedans ? Tuerie de masse, pendaison sommaire, cadavres qui pourrissent au bout de la corde. C'est macabre, très macabre, et pourtant c'est dans la Bible. Comment est-ce que Dieu peut être d'accord avec ça? Pourquoi a-t-il voulu cela? On peut toujours essayer de s'en sortir par une pirouette intellectuelle. Si vous regardez la composition de 2 Samuel, vous verrez que ces 4 derniers chapitres, 21 à 25, sont un supplément qui ne s'inscrit pas dans le fil historique des événements. Et il n'y a pas de lien avec les faits chronologiques qui précèdent. Et il semble donc que l'auteur a simplement voulu les conserver en les réunissant ici à la fin de sa narration historique. Et comme il n'y a pas de lien direct avec le fil de toute l'histoire de 2 Samuel, on pourrait être tenté d'en minimiser l'authenticité. Allons, un texte pareil, c'est peut-être un vieux copiste qui en a rajouté. Mais si on part dans cette direction, on a alors un gros problème, parce que c'est dans la Bible et c'est dans la Bible telle qu'elle. Alors, à moins de dire que le Saint-Esprit a fait une grosse erreur, on doit quand même accepter que c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une telle histoire? Quand on lit ça dans sa Bible, pendant son culte personnel, on se dit peut-être, « Bon, Seigneur, je vais lire le chapitre suivant, peut-être que ce soit plus clair. » Mais cette parole, elle est quand même inspirée par l'Esprit de Dieu, vous êtes d'accord? Toute écriture est donnée pour nous enseigner, nous corriger, nous éduquer. Alors, qu'est-ce que Dieu veut nous dire dans un tel texte? Je propose d'y regarder d'un peu plus près. Il y a famine en Israël. Pour situer l'époque, on est à peu près au début du règne de David à Jérusalem, approximativement David est roi depuis une dizaine d'années, environ. Et il y a une année de sécheresse. Alors, une année de sécheresse, ça arrive. C'est toujours pénible, surtout si vous êtes agriculteur, vous vivez de ce que produit le sol. Nous aussi, on a connu récemment des années de sécheresse. Mais chez nous, même pendant les années de sécheresse, les magasins restent bien fournis. On ne parle pas de famine chez nous, mais le mot pénurie qui avait disparu, rappelez-vous, il est revenu au moment du Covid. Et en ce moment, d'ailleurs, il y a une pénurie sur les œufs. On ne manque de rien sous nos latitudes, pas encore, mais il y a quand même quelques signaux faibles qui nous rappellent que l'abondance reste finalement fragile. En tout cas, au temps de notre texte, une année de sécheresse, c'était dur, mais ça restait gérable. On peut penser que David n'a pas prié tout de suite. Arrive la deuxième année, et là, toujours pas d'eau. Ça devient plus grave. Mais David ne prie pas encore. 2 ans de suite sans pluie, ça peut encore passer. Mais quand arrive la troisième année, qu'il n'y a toujours pas d'eau et que ça crie famine, là, David commence à avoir une vraie inquiétude. Et je pense que le peuple devait sérieusement commencer à s'agiter. David réunit alors le GIEC. Et le GIEC lui dit que c'est à cause du réchauffement climatique et qu'il est donc urgent d'interdire la cuisine au feu de bois pour réduire les émissions de CO2. Non, bien sûr, ce n'est pas en forçant le peuple d'Israël à investir massivement dans des fours à pain éco-responsables qu'on va changer quoi que ce soit au climat. Parce que cette sécheresse n'est pas une question de climat. David ne consulte pas le GIEC, évidemment, il consulte Dieu. Et peut-être que le roi s'est souvenu des bénédictions et des malédictions qui sont citées dans le Lévitique. Vous pouvez lire ça au chapitre 26. Quand le peuple agit contre Dieu, Dieu peut fermer le robinet de la pluie et envoyer la famine. Et c'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire du peuple d'Israël. Donc, David consulte Dieu. Et que fait Dieu? C'est une des rares bonnes nouvelles dans ce chapitre noir. Dieu lui répond. Pendant 3 ans, Dieu ne dit rien, car David ne lui a rien demandé. Mais ensuite, quand David demande, là, Dieu dévoile. Dieu dit à David ce qui se passe, et il lui dit, « Tu vois, David, c'est à cause de quelque chose que Saül a fait. » Et ça nous interpelle, parce que nous oublions ou nous concevons mal que le passé puisse avoir une telle influence sur le présent. C'est vrai, nous vivons essentiellement au présent et nous avons une tendance à rapidement oublier le passé. Mais le passé, il a un rôle et ce texte nous le montre. Ce que Dieu révèle à David est quelque chose qui s'était déroulé approximativement entre 20 et 40 ans avant. Alors essayez de vous souvenir, 20 à 40 ans en arrière, pour certains ça dépend de votre âge, mais vous n'étiez même pas né. David aurait pu dire, et moi, qu'est-ce que j'ai à faire avec ça? Moi, j'étais encore en train de garder mes moutons à Bethléem, c'est pas de ma faute. Pourquoi cette famine me tombe dessus à moi? Et finalement, David se fait rattraper par un passé dont, il faut le reconnaître, il n'est pas responsable. Il convoque donc les gens de Gabaon pour leur parler. Et je l'avais dit en lisant le texte, l'auteur fait une petite incise et nous rappelle qu'il y avait une alliance entre les Gabaonites et Israël. Et pour revenir au temps de cette alliance, ce n'est pas 40 ans en arrière qu'il faut remonter, mais cette fois-ci c'est 400 ans. C'est comme si nous on revenait un peu à l'époque de la guerre des religions et au moment de la publication de l'Édit de Nantes. C'est Josué qui avait conclu cette alliance avec les habitants de Gabaon. Rappelez-vous, je pense que vous connaissez bien l'histoire, les Gabaonites ont eu peur devant les succès militaires d'Israël au moment de la conquête de la terre promise et ils se sont dit, les prochains sur la liste, c'est nous. On sera les victimes suivantes, il faut qu'on fasse quelque chose. Et ils ont alors manigancé une ruse. Ils se sont habillés avec des très vieux vêtements qui tombaient en lambeaux. Et puis ils ont fait comme s'ils venaient de faire 1000 km à pied, juste exprès pour faire une alliance avec Israël. Et Israël est tombé dans le panneau. Israël ne prie pas et contracte une alliance devant Dieu. Alors c'est très intéressant, une petite explication pour bien illustrer comment les alliances formelles, solennelles, étaient passées aux anciens, au temps ancien de la Bible. Pour certaines alliances, lorsqu'elles étaient très formelles, on prenait une bête, ou plusieurs parfois, on les tuait, on les coupait en morceaux, on mettait de chaque côté, et les parties qui contractaient l'alliance passaient entre au milieu de ces morceaux de chair animale sanglant. Et vous avez une illustration de ça au chapitre 15 de la Genèse, où c'est l'épisode qui nous est raconté, c'est Dieu qui conclut l'alliance avec Abraham, avant qu'il s'appelle Abraham, et Abraham, pour sceller cette alliance, il avait coupé en deux une génisse, une chèvre et un bélier. Et le texte de Genèse est très précis parce qu'il nous dit que c'est Dieu lui-même qui avait scellé cette alliance sous la forme d'un tourbillon de fumée et puis une torche de feu qui sont passées entre les animaux coupés. Heureusement, aujourd'hui, on est plus sophistiqué. Une signature, ça suffit, et même, elle est de plus en plus électronique. Mais en ces temps bibliques, c'était différent. Il n'y avait pas d'alliance réelle s'il n'y avait pas une victime, si le sang n'avait pas coulé. Et le fait de passer entre ces animaux, ça revenait à dire haut et fort, si je ne suis pas fidèle à cette alliance, qu'on me traite comme on a traité ces animaux, et je fais ça sous le regard de l'Éternel Dieu d'Israël. Voilà donc ce qui s'était passé avec Josué. Il avait contracté une alliance sous serment avec les Gabaonites. Et 400 ans plus tard, Saül, qui croyait se rendre populaire auprès d'Israël et de Juda, avait commencé à exterminer les gens de Gabaon. Et maintenant, à peu près 20 à 40 ans après ce massacre, arrivent 3 ans de famine. Alors si on résume la situation, une vieille alliance rompue, et maintenant ces conséquences terribles qu'il faut gérer. Comment s'en sortir ? Alors de ce texte un peu difficile, il y a quand même quelques leçons à tirer et je vous en propose 3 ce matin. Une première, elle est immédiate, elle s'impose simplement par la lecture de cet épisode. C'est l'importance aux yeux de l'Éternel de la parole donnée, le respect de l'engagement pris et je sais que je ne vous apprends rien. Une alliance conclue devant l'Éternel est un pacte. Qu'il peut être très dangereux de rompre. Il y a des conséquences. Les Israélites, par l'intermédiaire du roi Saül, avaient trahi le pacte de non-agression envers les Gabaonites. Et la sanction divine intervient des années plus tard, mais elle intervient. C'est implacable. car Saül avait commis une très grosse erreur. Il avait considéré que cette alliance datait d'un autre temps. Il avait estimé que, parce que c'était vieux, c'est devenu caduc. Il avait considéré que l'époque ayant changé, la parole donnée il y a 400 ans en arrière n'avait plus besoin d'être respectée. Pour lui, il fallait maintenant que ces Gabaonites, rusés et trompeurs, apprennent la raison et rentrent dans le rang. Par son parjure, parce que c'est de ça dont il s'agit, par son parjure, Saül avait fait dire aux Gabaonites, qui étaient d'origine païenne, mais avec le temps, ils sont certainement devenus juifs, il avait fait dire haut et fort, « Vous voyez, on a beau faire une alliance au nom de Dieu, invoquer le nom de Dieu en serment, le roi d'Israël, il fait ce qu'il veut. Et de ce fait, il porte atteinte, il endommage la réputation de Dieu. » N'importe quel païen aurait pu conclure que même quand les Israélites font quelque chose au nom de leur Dieu, c'est pas mieux qu'avec les idoles. Leurs paroles s'envolent, elles ne vaut rien. Et Dieu n'est pas d'accord avec ça. Dieu dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Saül et sa famille avaient oublié que cette alliance avait été conclue au travers des bêtes mortes. Et Saül a invoqué sur sa maison, peut-être qu'il ne le savait pas, j'en sais rien, mais il a invoqué une malédiction. Et pour réparer les torts, 5 petits-fils et 2 fils de Saül vont devoir payer de leur vie, vont payer de leur vie le péché de leur père ou de leur grand-père. Et là, nous pouvons constater qu'il n'y a pas de pardon sans qu'il y ait une victime qui paye de sa vie. Pas de pardon sans verser le sang. Ça, c'est l'Ancien Testament, mais c'est répété dans le Nouveau. Si vous lisez Hébreux 9, verset 22, vous lirez exactement ceci, « Il n'y a pas de pardon sans verser le sang. » Et ça, c'est la deuxième leçon qu'on peut retenir de ce texte. Et ça rappelle beaucoup l'Évangile. Je pense que vous l'avez deviné. Car oui, derrière cette histoire, qui semble assez monstrueuse au premier abord, se cache une analogie avec le message de l'Évangile. Personne parmi nous n'est pardonné par Dieu à moins que le sang ait été versé. Et lorsque David convoque les Gabaonites pour leur demander justement comment réparer le tort, la réponse est très très intéressante. Là où nous aurions peut-être à leur place demandé un dédommagement financier, un pécule d'argent en titre d'indemnisation du préjudice subi, eux, ils demandent tout autre chose. Le texte ne le dit pas, mais peut-être que David leur a demandé « Quel est votre prix ? Combien ? 1 million ? 2 millions ?» Non. Eux, ils disent, le texte nous dit, « Ce n'est pas une affaire d'argent et d'or. » Ils ne réclament pas de dédommagement matériel. Ils ont compris que la question est beaucoup, beaucoup plus grave. Il s'agit d'obtenir vie pour vie. Or, leur position de dépendance vis-à-vis d'Israël, ils vivaient dans une forme de soumission, leur position de dépendance vis-à-vis d'Israël ne leur permettait pas, eux-mêmes, de se procurer cette réparation. On est en Israël, et en Israël, les choses sont gérées selon Dieu, parce que c'est le pays de Dieu et c'est le peuple de Dieu. Et dans Nombre 35, au verset 33, la loi dit exactement ceci. Ne profanez pas le pays où vous vous trouvez. En effet, le sang versé profane le pays. Car pour le pays, il n'y a pas d'expiation pour le sang qui a été versé, sinon par le sang de celui qui l'a répandu. Et les Gabaonites le savent. Or, le sang innocent avait été versé. Nous ignorons complètement les détails du massacre commis par Saül. Nous n'avons aucune idée du nombre de morts, mais probablement beaucoup. David avait donc consulté l'Éternel par la prière, évidemment, mais il est probable aussi qu'il s'est adressé au grand prêtre pour recourir à l'Ourim et au Thummim. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez lire une description de ce que c'était. C'était Une méthode pour découvrir la volonté de Dieu, c'est décrit dans Exode 28 et puis aussi dans Nombre 27, par exemple. Et c'était le grand prêtre qui avait la responsabilité de discerner la volonté divine sur les questions d'importance nationale. Et là, clairement, en l'occurrence, c'est vraiment une question d'importance nationale. Dieu révèle donc à David ce qui se passe et il donne la solution au problème par la voix des Gabaonites. Et après avoir laissé éclater sa colère sur Israël, c'est-à-dire une fois que la solution qu'il a donnée a été mise en œuvre, Dieu va finalement intervenir favorablement, Dieu va se laisser fléchir et la pluie va se mettre à tomber. C'est dit au verset 14. Voilà, fin de l'histoire avec une belle conclusion, n'est-ce pas? Oui, mais entre-temps, c'est l'horreur. C'est l'horreur à Gibéa où se dresse cette potence avec ces hommes pendus qui n'y sont pour rien. Ils sont innocents. Ils n'ont rien fait en liaison avec ces événements. La seule chose pour leur malheur, c'est qu'ils sont les descendants du coupable. Ils sont amenés et ils sont tués là, sur cette colline, devant Dieu. Et comme le précise le verset 9, ils sont pendus sur la montagne devant l'Éternel. Parfois, le texte a de tels détails qu'on a l'impression qu'on peut toucher du doigt la cohérence et la précision de la parole. Dieu est partout dans cette histoire. L'alliance qui avait été conclue devant l'Éternel a été rompue. La réparation du crime se fait devant l'Éternel. Dans notre texte, c'est le péché de Saül qui entraîne tout ça. Mais ne le jugeons pas trop vite, car avant de pointer le doigt sur lui, pensons aux trois doigts qui pointent vers nous. Parce que mon péché a amené à ce que Jésus, le Fils glorieux de Dieu, a été crucifié sur la colline, également devant l'Éternel. J'ai déjà évoqué l'analogie de cette histoire avec le message de l'Évangile. Nous avons ici, sur cette colline de Gibéa, une image de ce qui s'est passé sur une autre colline, la colline de Golgotha. Et ce qui se joue ici, c'est le prix de la grâce. On pourrait inscrire ce titre au-dessus de ces 14 versets, le prix de la grâce. Et j'aurais aussi pu donner ça en titre de cette prédication. La grâce divine. On est habitué à la grâce. Nous avons été sauvés par grâce. C'est ce que nous disons très souvent, n'est-ce pas? Et c'est entièrement vrai, entièrement vrai. Mais qu'est-ce que ça a coûté? Nous, on n'a pas payé. Mais ce n'est pas pour autant que c'est gratuit. Un prix affreux a été payé, comme ce jour-là, en Israël, à Gibéa. Alors, faisons bien attention à la manière avec laquelle nous considérons la grâce. C'est une troisième leçon que nous pouvons tirer de notre texte ce matin. Faisons bien attention à la manière avec laquelle nous considérons la grâce. Et je vais m'attarder maintenant un peu plus longuement sur cette troisième leçon. Parce que s'il y a quelque chose à retenir ce matin, absolument, c'est ça. Attention à la manière avec laquelle nous considérons la grâce. Dès le premier sacrifice qui est prescrit au premier chapitre du Lévitique, jusqu'au dernier sacrifice qui est apporté sur la colline de Golgotha, la Bible nous enseigne le prix de la grâce. Le sang doit couler. Comment échapper à ça? Où est-ce qu'on peut se cacher devant le jugement? Où peut-on trouver un abri? Qui peut nous cacher devant la colère de Dieu? On va se pencher sur le verset 7. Une bonne nouvelle, ce verset 7, au milieu de l'horreur. Il y a un garçon, fils de Jonathan, que David avait accueilli à sa table. C'est Mephibosheth. Et parce que David avait contracté une alliance avec Jonathan, et ça vous pouvez le lire, c'est écrit dans le premier livre de Samuel, et David et Jonathan s'étaient mis d'accord, ils ont fait un pacte, qu'ils viendraient au secours de leurs descendants respectifs, le cas échéant. Alors vous avez remarqué, il y a ici un jeu de deux alliances. Il y a l'alliance que Saül avait rompue, Et là, on voit l'alliance que David va respecter. Et Méphibosheth, quand il apprend qu'on avait cherché ses oncles et ses cousins pour les exécuter, parce qu'il en a forcément entendu parler, c'est sûr, eh bien, il s'est probablement mis à trembler et il a pensé que sa dernière heure avait sonné. Mais non, ce n'était pas sa dernière heure parce que Méphibosheth avait trouvé un abri. Un abri contre la tempête du jugement. Quand on vient chercher les descendants de Saül, Méphibosheth était caché. Caché, non pas par sa propre vertu, mais caché parce qu'il était l'objet d'une alliance. Et bien plus tard, le fils, le grand-fils de David, a aussi contracté une alliance, la nouvelle alliance, pour nous. Il en est le sacrifice, c'est son sang qui a coulé et nous sommes à l'abri. Si tu as mis ta confiance en Jésus, tu es à l'abri. Jésus dira que celui qui croit en lui ne viendra pas en jugement. Mais comment est-ce que Dieu peut faire ça? Parce que mon jugement a été porté par Jésus sur la croix. J'avais besoin de cela. Mon péché, chaque péché que je peux faire, a ajouté au fardeau qu'a porté le Christ sur la croix. Et je suis maintenant à l'abri. Jésus a encore dit ceci. Je donne à mes brebis la vie éternelle. Jamais elles ne périront. Et personne ne pourra les arracher de ma main. Est-ce que tu es à l'abri? C'est une vraie question, peut-être la plus importante de toute ta vie. Quand viendra le jugement, et le jugement viendra, chers tous dans cette salle, serez-vous à l'abri? Il n'y a qu'un endroit où être à l'abri, quand tu es caché par l'alliance que Christ a contractée par son sang. Voyez-vous, nous devons considérer le prix de la grâce. Dieu ne pardonne pas avec légèreté. Allez, c'est bon, je te pardonne. Nous, on est parfois comme ça. Et encore, que pour les choses pas graves. Parce que pour les choses graves, on ne pardonne pas toujours vraiment. Je me souviens d'avoir entendu Roger, ou même d'autres l'ont dit, notre ancien pasteur, qui a une fois rapporté l'anecdote à propos de quelqu'un qui avait dit « J'ai pardonné, mais je n'ai pas oublié. » Vous connaissez peut-être. Ça fait peut-être sourire. Mais si Dieu devait faire comme ça avec moi, il n'y a plus d'espoir alors. Mais Dieu oublie parce que Dieu pardonne vraiment. Et ça nous amène à la dernière partie de ce texte. Et là, c'est peut-être la partie qui fait le plus froid dans le dos. Imaginez la scène. Sur cette colline maudite, devant l'Éternel, 7 poteaux. 7 hommes pendus. Et au pied, il y a Rizpa. Rizpa, vous avez déjà entendu quelqu'un qui s'appelle Rizpa? Moi, jamais. On invente beaucoup de nouveaux prénoms aujourd'hui, mais Rizpa, jamais entendu. Et pourtant, Rizpa, c'est la dame dans ce récit qui mériterait d'être mieux connue. Elle n'était qu'une épouse de second rang. C'est un genre de concubine avec un statut plus ou moins officiel. C'est pas terrible comme situation. Et à côté de Merab et de Mical, les filles de Saül, elles ne comptaient certainement pas pour beaucoup. Mais ce jour-là, on avait été trouver ses fils. C'est tout ce qui lui restait. Saül, son mari ou son amant, je ne sais pas trop comment il faut dire, en tout cas, Saül était mort depuis plusieurs années déjà sur le mont Gilboa. Et maintenant, on est venu chercher tout ce qui lui reste. 2 garçons, mais après, au moment de notre histoire, c'était certainement des adultes. Mais c'est tout ce qu'elle a, la lumière de ses vieux jours. Et maintenant, leur cadavre était en train de pourrir devant ses yeux. Et elle fait ce qu'elle peut pour éloigner les charognards. Et elle est là. Combien de temps? Je ne sais pas. Des jours, c'est certain. Des semaines, probablement. Normalement, quand on commence la moisson des orges, la prochaine pluie, c'est en automne. C'est ce qui est marqué dans certaines traductions. Alors, si c'est comme ça, ça veut dire que ça a duré de avril à octobre. Il y a peut-être eu de la pluie avant, mais ça a duré au moins des semaines. Des semaines qu'elle est là à pleurer. Et qu'est-ce qu'elle peut faire d'autre? Il ne lui reste rien. Quand elle contemple les cadavres, de ce qui était son espoir, qu'il n'y a plus rien, que la vie ne tient plus à rien pour elle, elle a tout perdu. Sauf ce qu'elle aurait peut-être préféré perdre à leur place, sa propre vie. Elle est là, Rizpa, avec ses larmes, et peut-être qu'au bout d'un moment, elle n'a même plus de larmes. Elle est là, avec sa tristesse, avec ses regrets, avec son amertume, avec les deux fils morts. Elle est là, à contempler le prix de la grâce pour que la famine s'arrête. On ne peut pas s'empêcher, en lisant ça, de penser à cette autre maman, qui, elle, se trouve nommée un peu plus souvent, mais qui était aussi en pleurs, au pied de la croix, où pendait son fils, en train de se vider de son sang, pour nos péchés. Elle aussi, Marie, elle était là, à contempler le prix de la grâce. Mais pour Rizpa, sur cette colline, il n'y aura pas de résurrection. La nuit va durer jusqu'à sa mort. Il n'y a rien d'inutile dans la Bible. Il n'y a pas de chapitre en trop. Ce texte est là pour nous rappeler que la grâce de Dieu a toujours un prix. Et cela est vrai dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et il est parfois utile de prendre de temps en temps du temps pour nous rappeler le prix de la grâce. Du temps pour juste être là, au pied de la croix, à contempler le prix de la grâce. Je pense à cet Allemand, le comte von Zinzendorf, 18e siècle, 1700 et quelques. C'était une figure importante du protestantisme de cette époque, et c'était aussi un remarquable compositeur de cantiques. Et Zinzendorf est dans un endroit où on a exposé une peinture qui représente une scène de la Passion de Jésus. Vous connaissez peut-être cette histoire. Et le peintre avait écrit de sa main, en dessous de cette peinture, « J'ai souffert cela pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Et Zinzendorf est là, perdu dans ses pensées, perdu dans sa méditation, à contempler devant ce tableau le prix de la grâce. Et plus tard, il écrira ceci. « Je sentis que je n'avais pas grand-chose à répondre à cette question. » Et je suppliais le Seigneur de placer devant moi ce qu'il désirait que je fasse pour lui. Il y a un temps pour tout, un temps pour rire et un temps pour pleurer, et un temps pour contempler le prix de la grâce. Un autre Allemand, je n'ai pas fait exprès, croyez-moi, un autre Allemand du XXe siècle cette fois, le pasteur Dietrich Bonhoeffer a lui aussi beaucoup médité sur le prix de la grâce. Alors Dietrich Bonhoeffer, c'était un opposant de la première heure à la montée du nazisme. Et il est mort en déportation en avril 1945, à peine un mois avant la fin de la guerre. Et il a écrit une série de réflexions dont le fil conducteur décrit ce que doit être la vie de disciple. Et dans l'un de ses écrits, il parle beaucoup de la grâce, avec précision et pertinence. Et il fait la distinction très pertinente, justement, entre ce qu'il appelle la grâce à bon marché et la grâce qui coûte. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces deux notions. Je n'ai pas le temps ce matin. On pourrait développer vraiment en profondeur ces deux aspects, mais je voudrais quand même dire ceci. Il a identifié, ce Dietrich Bonhoeffer, il a identifié un grand danger pour l'Église. C'est ce qu'il appelle la grâce à bon marché. Alors la grâce à bon marché, c'est quoi ? La grâce à bon marché, c'est la grâce qui est considérée comme une marchandise à brader, c'est le pardon au rabais. Une grâce qui sert juste de réservoir intarissable, une grâce sans aucun prix et sans aucun coût. Une grâce où on se dit que, en raison même de la nature de la grâce de Dieu, la facture est payée d'avance, on peut donc tout avoir gratuitement. Une grâce qu'on utilise comme un voile pour couvrir ses péchés. La grâce à bon marché, c'est l'excuse par rapport au péché, voire même la justification du péché. La grâce à bon marché, C'est la prédication du pardon, mais sans la repentance. La grâce à bon marché, c'est le chrétien qui finit par vivre comme le monde, simplement sous un vernis de piété et de religiosité. Soyons tous vigilants pour ne pas tomber dans ce piège insidieux et redoutable. Mais par opposition à cette grâce bon marché, il y a la grâce qui coûte. Elle coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu, on vient de le voir. Mais c'est aussi une grâce qui nous coûte, elle nous coûte. C'est l'évangile qu'il faut toujours chercher à nouveau. C'est la réponse toujours active à l'appel de Jésus-Christ. Cette grâce, elle nous coûte parce qu'elle appelle à devenir disciples à la suite de Jésus. Elle nous appelle à des renoncements, des choses qu'on laisse volontairement de côté. Le philosophe Albert Camus a dit « Un homme, ça s'empêche. Un homme, ça s'empêche. » Il voulait dire par là qu'à l'ère du « tout permis » dans la société, eh ben, il existe quand même une éthique de la retenue. Un homme, ça s'empêche. Et pour un disciple de Jésus, c'est pareil. Un véritable disciple, ça s'empêche. Il y a des endroits où un chrétien ne peut pas aller, des choses qu'un chrétien ne peut pas dire ou ne peut pas regarder, des fréquentations qu'un chrétien ne peut pas avoir, des principes de vie auxquels un chrétien ne doit pas déroger. Oui, la grâce coûte. Elle nous coûte parce qu'elle nous contraint à nous soumettre au joug de la marche à la suite de Jésus. Jésus a dit « Mon joug est doux ». Mais même si le joug est doux, ce n'est pas nous qui choisissons la direction. Elle nous coûte, cette grâce, parce qu'elle nous pousse à produire des œuvres bonnes. Elle nous coûte parce qu'elle exige nos efforts pour vivre en disciples de Christ. Il ne s'agit pas d'envisager ne serait-ce qu'un début de salut par les œuvres, en aucune façon. Mais si nous saisissons pleinement la valeur du prix de la grâce, alors nous ne pouvons pas, nous ne devons pas nous contenter d'une vie de chrétien bas de gamme, une vie de chrétien grignotée par toutes ces petites concessions au monde, simplement au prétexte que Dieu pardonnera. Non, Dieu mérite infiniment mieux de notre part. Juste un rappel de ce qui était écrit sur le tableau, « J'ai souffert cela pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Je vais terminer. Nous sommes à l'abri de la tempête du jugement éternel parce que nous sommes protégés par une alliance. Jésus a scellé cette alliance, il a payé le prix de la grâce. Et dans quelques instants, notre frère Pierre-Paul nous conduira pour la Sainte-Cène où nous pourrons nous rappeler tout cela. Chers frères, chères sœurs, si nous avons véritablement saisi le prix de la grâce, il n'y a qu'une attitude qui tienne. Nous lever et encore mieux servir le Seigneur. Peut-être avec une envie nouvelle. Peut-être avec un zèle renouvelé. Avec un enthousiasme nouveau. Et peut-être aussi avec une consécration renforcée. Nous devons bien cela à notre divin Maître. Et si nous en avons la volonté et le lui demandons ardemment, il nous fera comprendre ce qu'il attend de nous, et en plus, il nous en rendra capables.